Bon matin à chacun et chacune d'entre vous. Vous allez bien ce matin? Oui. Êtes-vous des gens ordinaires? Oui. Vous savez, Robert Charles Lebois, il avait une chanson, « Je suis juste un gars ben ordinaire ». Ben, je suis content de savoir que vous êtes des personnes ordinaires, parce que moi, j'en suis une aussi. Puis il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir que Dieu puisse faire des choses extraordinaires avec des personnes ordinaires. Et c'est pour ça que dans la série qu'on fait présentement, ce matin, on va regarder ensemble le dernier message de cette série-là sur « Je suis Esther ». Bon, désolé Esther pour que je le dise de même, là, mais tu vas voir même, Esther, que même toi, tu vas avoir des petites choses à apprendre à matin ici, comme nous tous d'ailleurs. Donc, parce que oui, au travers de cette série de messages-là, on a vu à quel point Dieu peut utiliser des personnes ordinaires, mais pour faire des choses vraiment extraordinaires. Et pour ce faire, comme je vous disais, on va regarder un peu la vie de Esther. Mais on n'aura pas le choix quand même de regarder un peu le livre aussi dans son contexte. Donc, le plan de match pour ce matin, c'est assez simple. C'est que dans un premier temps, on va faire un petit résumé de l'histoire parce qu'on n'a pas le choix vraiment. Puis, comme sans doute, si je demandais à quelqu'un, aux gens de lever la main ce matin pour savoir si vous avez lu le livre d'Esther cette semaine, peut-être qu'il y en a qui diraient « Oh, je ne le savais pas, sinon je l'aurais lu. » Mais vous n'avez pas eu le temps aussi, peut-être. Donc, je vais vous donner un petit résumé du livre et de l'histoire. On va faire après ça une petite mise en contexte de cette histoire-là. Et comme on parle de hashtag « Je suis Esther », bien, automatiquement, c'est parce qu'on espère peut-être ressembler à Esther à quelque part, et ce qu'on va voir que certaines caractéristiques. On va voir après ça aussi reconnaître la providence de Dieu. Parce que c'est un point qui ressort tout au long de ce livre-là, comment Dieu agit et demeure au contrôle des divers événements. Et on va terminer par une portion qui va nous aider à célébrer la délivrance. Donc, il était une fois. Là, je vous le dis tout de suite, je dois résumer en 5 minutes 10 secondes le livre. Donc, ça va rouler. Mais en même temps, en plus, je me suis permis une certaine liberté dans le style, je ne vous cacherai pas. Mais les événements sont vrais, je vous le dis tout de suite. Mais j'ai essayé de l'actualiser un peu comme c'était raconté en 2018. Peut-être un petit peu à des enfants aussi au travers de ça. On est tous un peu enfants aussi. Ça vous va? Donc, un résumé de cette histoire-là. Il était une fois un roi qui régnait dans un grand empire. Ce roi aimait bien lever le coude, et lorsqu'il faisait le party, ça durait pas mal longtemps. Il était très orgueilleux et ses festins lui permettaient de s'honorer lui-même. C'est donc lors d'un de ses parties qu'il décida que le clou de la fête serait la présentation de la reine Vasti. Mais voilà que Madame décida de faire à sa tête et elle refusa de se présenter. Quelle insulte pour le roi et ses convives! Alors, que faire suite à un tel affront, car la nouvelle allait se répandre comme une traînée de poudre dans tout le royaume, que le roi n'était même pas capable de se faire obéir par sa femme, et que conséquemment, toutes les femmes du royaume allaient prendre exemple de la reine et commencer à manifester afin d'avoir plus de droits. Alors, dehors la reine! Et on envoie les poneys express partout dans le royaume pour aviser que dans chaque maison, c'est l'homme qui devait être le boss. Puis, voilà que vint le temps de remplacer la reine. Et c'est ainsi qu'Esther, une jeune orpheline élevée par son cousin Mardochée, fut choisie pour faire partie du harem du roi. Le roi décida donc de choisir Esther et la fit reine. Quelque temps après, le cousin de la reine, Mardochée, eut connaissance qu'un complot se tramait et que les initiateurs de ce complot étaient deux eunuques, des hommes castrés, proches du roi pour sa sécurité. Mardochée en informa la reine, qui en fit part au roi. Mauvaise fin pour les deux eunuques. Pendant ce temps, un sinistre personnage nommé Aman devint le bras droit du roi. Aman appréciait les honneurs et c'est pourquoi il devint de plus en plus fru lorsqu'il constatait que Mardochée refusait de se prosterner devant lui. Son irritation devint telle qu'il développa une hargne à l'égard de Mardochée et de tous les Juifs. dans sa hargne et sa fureur, il alla jusqu'à demander au roi que tout le peuple soit exterminé, en prétextant que ce peuple était insoumis au roi. Le roi donna son approbation et à nouveau, les poneys express parcoururent toutes les provinces pour les aviser qu'au jour J, tous les Juifs devaient être tués. Bien entendu, lorsque Mardochée apprit la nouvelle, il s'empressa de demander à la reine Esther d'intervenir auprès du roi. Mais ne s'approche pas du roi qui veut, quand bien même ce serait la reine. D'autant plus que ça fait un mois qu'il ne lui a pas parlé, ou du moins qu'il ne l'a pas appelé. Heureusement, la reine trouva grâce devant le roi et Esther, en femme sage qu'elle est, ne lui fait pas immédiatement sa demande, mais l'invita plutôt à un banquet le jour même avec Aman. Quelle fierté pour Aman de se savoir ainsi honoré par la reine et le roi, et quel bonheur de pouvoir s'en vanter auprès des siens. Mais en sortant du palais, encore le même problème avec Mardochée qui refuse de se prosterner. Alors là, il y a toujours bien des limites. Pourquoi ne pas le faire pendre plus rapidement plutôt que d'attendre le jour J? Il ne lui reste que le hoquet du roi à avoir, et c'est ce qu'il devrait pouvoir obtenir le lendemain. Cette nuit-là, on ne sait pas si c'est parce qu'il avait trop mangé, mais voilà que le roi n'était pas capable de dormir. Alors quoi de mieux qu'un peu de lecture pour se détendre? Par hasard, on lui lut donc le récit par lequel Mardochée avait déjoué le complot visant à assassiner le roi. Malheureusement ou heureusement, aucune marque de reconnaissance n'avait été faite à Mardochée suite à cet événement. De bon matin, Aman se présenta afin de faire sa demande pour que Mardochée soit pendu subito presto. Mais voilà qu'en arrivant, le roi l'interpelle afin de savoir, d'avoir un conseil pour savoir ce qu'il faudrait faire pour un homme que le roi veut honorer. Alors Aman, pensant que ce serait lui qui serait à honorer, y mit le paquet pour être certain que tout le peuple puisse l'admirer, mais ô erreur! Le roi trouva l'idée excellente et demanda à Aman de faire ainsi à l'égard de Mardochée. Grattage de tête, honte extrême pour Aman qui s'en retourna comme un piteux pitou. Ce même jour, Aman se présenta à nouveau au banquet organisé par la reine, et c'est lors de ce banquet que la reine exposa au roi le plan mis au point, et que si le projet d'Aman était mis à exécution, elle-même, la reine, et son peuple seraient mis à mort. La moutarde monta au nez du roi, qui s'assura sur le champ que Aman soit pendu à même le bois qu'il avait fait préparer pour Mardochée. Suite à cela, les poneys express furent de nouveau utilisés afin d'informer tous les peuples de toutes les provinces que les Juifs avaient la permission de se défendre lors du jour J. Lorsque le jour J arriva, les Juifs réussirent à se défendre contre ceux qui osaient les attaquer et de brillantes victoires furent acquises. Quelle joie dorénavant pour le peuple juif de pouvoir se remémorer annuellement depuis ce jour ce retournement de situation. On peut rire, oui, c'est vrai, mais c'est comme un film, ce livre-là. C'est comme un roman qu'on lit, puis l'intrigue nous gagne, puis là, on a hâte de voir qu'est-ce qui va arriver. Et effectivement, c'est toute une belle histoire. Et vous savez, ce livre-là, je l'ai dit tout à l'heure qu'il fallait en faire une mise en contexte. Pourquoi? Parce que, oui, c'est un livre qui est très intéressant, mais c'est un livre aussi qui a subi beaucoup de critiques. C'est un livre dans lequel on ne retrouve même pas le nom de Dieu. Très exceptionnel. On ne retrouve pas du tout, à aucun endroit, le nom de Dieu. C'est un livre aussi dans lequel on n'a fait aucune mention de la loi mosaïque, de la sacrificature et ainsi de suite. Aucune mention, c'est le silence total. C'est aussi un livre dans lequel il n'y a pas de mention spécifique à la prière. Donc, c'est ce qui fait que c'est un livre qui a été très critiqué, à quelque part, en se disant comment ça se fait que ça peut être possible. Pourtant, c'est un livre qui est très riche, parce que c'est un livre qui nous montre comment Dieu prend soin de son peuple, malgré tout, on pourrait dire. Et ça se déroule à un moment quand même assez particulier. Vous savez, j'ai trouvé ce mot-là, je trouvais très joli, au niveau géopolitique. Donc, géographie et la politique mêlées ensemble, à peu près, qu'est-ce qui se passait? c'est qu'on avait affaire quand même à un grand empire. On avait affaire à un grand roi, mais avec des très, très grandes faiblesses aussi. Et on avait affaire à un peuple qui est exilé. Et je vous ai mis à l'écran une carte pour vous montrer un peu cet empire-là, l'empire perse en tant que tel, qui existait au 5e siècle, donc au moment vraiment où l'histoire d'Esther nous est rapportée. Donc au 5e siècle, et qui se déroule à peu près sur les événements dont du livre se rapporte, se déroule environ sur une dizaine d'années. Donc, ce roi-là, Assuérus, régnait sur un très grand territoire, sur un empire qui s'étendait de l'Inde jusqu'en Éthiopie et sur 127 qu'il appelait provinces. Donc, c'est un très, très grand territoire de plusieurs milliers de kilomètres. Et ça regroupait, dans le fond, cet empire-là regroupait des pays comme on retrouve aujourd'hui, comme par exemple le Pakistan, l'Afghanistan, l'Iran, la Turquie, une partie de l'Égypte et même la Palestine. Donc, c'était un très, très grand territoire sur lequel le roi régnait. Et c'est sur ce territoire-là qu'on retrouvait aussi les Juifs, des Juifs qui étaient exilés. Vous vous souvenez qu'il y avait eu des déportations par Nebuchadnezzar et ainsi de suite, qui avaient amené des gens à Babylone. Et là, l'histoire qui est décrite ici se déroule en bonne partie vraiment dans la région de Suse, qui est ici. Okay? Et ce qui est particulier, c'est que les Juifs avaient eu l'occasion, avait eu l'autorisation par un décret de retourner en Palestine, de retourner en Israël, à Jérusalem. Mais plusieurs ont décidé de rester dans la région de Suse. Bizarre. Bizarre. Et même les prophètes, comme par exemple Jérémie et Ésaïe, avaient enjoint le peuple à dire, « Vous avez l'occasion, sortez de là, retournez dans votre pays. » Pourquoi ils sont restés là? C'est là la question. Est-ce que c'est parce qu'il était reconnu que les Perses avaient une bonne attitude, n'étaient pas trop belligérants avec les Juifs? Mais toujours est-il que c'est à cet endroit-là que le peuple juif et que Esther, de même que Mardochée, demeuraient. Mais c'est donc dans ce contexte-là géopolitique qu'une jeune fille juive, Esther, a été choisie pour devenir reine, mais jouer un rôle prédominant afin de faire renverser un complot visant l'extermination totale du peuple juif. Ressembler à Esther maintenant, est-ce que c'est un peu votre rêve? Est-ce que vous reconnaissez? Il y a quelqu'un d'assez âgé qui peut me dire c'est qui la personne à droite? La reine Élisabeth II. Plus jeune, bien entendu. Elle doit être rendue, je pense, à 100 ans ou 99, quelque chose comme ça. Mais, vous savez, lorsqu'on imagine la monarchie comme la reine Élisabeth, avec tout ce que ça peut impliquer, on peut un peu rêver à ça, de devenir reine. Mais, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe en vraie vie. Et oui, de nos jours, les reines ont des bons soins. Il nous est dit ici que même... On ne lira pas tous les textes, mais que notre Esther était belle de taille et belle de figure. Je n'ai pas mis de photo. Parce que dépendamment du pays où vous êtes, sa planète, ça ne veut pas dire la même affaire du tout. Mais pour Dieu, elle était belle de taille et belle de figure. Ensuite de ça, de devenir reine, ça permettait aussi d'être aux petits soins. Pendant un an de temps, toute la reine, toutes ces femmes-là étaient prises aux petits soins avant d'être présentées au roi. Et là, il profitait de vraiment des conditions extraordinaires. 6 mois de temps à utiliser de l'huile de myrrhe, qui était très, très particulier. 6 mois de temps avec des aromates et des parfums. Imaginez, si vous allez dans une pharmacie, avez-vous remarqué, toutes les pharmacies ont la même chose, quand on ouvre la porte, où est-ce qu'on arrive? Dans les cosmétiques, exactement, les parfums. Il n'y a pas de... Toutes les pharmacies sont comme ça. Parce que ça nous attire, c'est charmant, c'est merveilleux, ça. Donc, ces prétendantes-là avaient l'occasion pendant un an d'être traitées aux petits soins. Je ne sais pas s'ils prenaient des bains de lait en plus et ainsi de suite. Ça ne nous est pas dit, mais c'était vraiment aux petits soins. Après ça, il y avait des servantes aussi. Hey, les servantes, mesdames! Des serveurs, messieurs, là, vous comprenez, là aussi, parce qu'il faut s'identifier à Esther, nous aussi. Puis finalement, même avoir un certain pouvoir. Donc ça, c'est un peu le rêve. Et oui, c'est vrai, tout ça. Sauf que dans la réalité, dans le cas de notre histoire ce matin, pour Esther, il faut se rappeler que c'est une jeune fille qui était orpheline. Pas de père, pas de mère. Elle était orpheline. Et c'est son cousin, Mardochée, qui l'avait adoptée, puis qui l'a élevée. Ça n'a certainement pas dû être toujours facile. Et là, oui, elle est choisie, elle n'a pas un mot à dire, elle se présente au travers, les historiens pensent au moins 200 autres femmes qui étaient dans le harem pour devenir soit peut-être une reine et les autres des concubines. Donc, prise malgré elle pour faire partie du harem. Choisie par le roi pour devenir reine sans choix de sa part. Ce n'est pas elle qui décide. Oui, je l'aime. Non, non. Tu vas l'aimer. C'est pas pareil. Puis t'es mieux de l'aimer. Obligée même de cacher sa nationalité, on va le voir un peu plus loin aussi. Mardochée lui a dit même, va pas dire que tu es juive. C'est pas évident. Et même risque de subir le sort de Vasti. Donc c'est pas si évident que ça, ressembler à une reine. Mais au travers de tous ces événements-là, Esther, quand même, on voit dans ce livre-là qu'elle avait des attitudes, des comportements, un caractère qui faisait que vraiment, ça peut nous inspirer à nous aussi aujourd'hui. C'est une femme qui était humble au travers de toutes les prétendantes qui étaient là. Elle n'a pas cherché à dire « ça va être moi, vous êtes tassez-vous de là », peut-être que comme d'autres auraient fait. Donc, au travers de tous les événements qu'elle a vécu dans cette histoire-là, un peu que je vous ai résumé tout à l'heure, elle est restée humble. Elle a eu une très grande noblesse de cœur aussi. Si vous voulez tourner au chapitre 2, verset 15, et c'est dit à beaucoup d'autres endroits, mais au chapitre 2, verset 15, à la fin du verset, il est dit ceci, que Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. De par son attitude, Esther trouvait grâce devant toutes ces personnes-là. Donc, une très grande noblesse de cœur. C'est une femme qui était solidaire aussi avec son peuple. C'est une femme qui s'est préoccupée aussi de son peuple lorsqu'elle a vu qu'il était pour être exterminé. C'est une espèce de grande patriote, on pourrait dire même. C'est une femme aussi qui était courageuse, et même, je dirais, courageuse et déterminée, parce que de s'approcher du roi, c'est quelque chose qui était vraiment dangereux. Quand le roi ne t'appelait pas, si tu te présentais devant lui sans avoir été invité et qu'il ne te tendait pas le sceptre royal, c'était fini. Même pour la reine, la même chose. Donc, pour oser s'approcher, ça prenait beaucoup de courage et déterminé aussi dans les actions, bien entendu. Mais c'est une femme aussi qui était respectueuse. Tout au long de cette histoire-là, on voit que dans sa façon de parler aux personnes, dans la façon de s'approcher du roi, dans la façon de s'adresser à Mardochée, et ainsi de suite, même avec ses servants, c'est une femme qui était très respectueuse aussi. C'est une femme qui était patiente parce qu'elle savait ce qu'elle avait demandé. Mais on l'a dit tout à l'heure, je vous l'ai dit, elle a attendu le moment opportun pour signifier le complot d'Aman. Elle a attendu vraiment le moment. Elle a reporté même pour être sûre que ce soit le temps. Donc, une femme qui était vraiment patiente et c'est une femme qui a été reconnaissante aussi. Parce que, dans le résumé, je ne l'ai pas dit, mais à la fin aussi, on voit que, suite à ce qui est arrivé, ben, elle a donné une place vraiment privilégiée à Mardochée en tant qu'administrateur vraiment du royaume en tant que tel. Donc, toutes des belles qualités. Mais vous savez une chose, ce sont toutes des belles qualités, on est tous d'accord. Mais l'histoire du monde, quelles que soient les histoires, souvent on va voir que dans les histoires même du monde, beaucoup d'hommes et de femmes ont eu ces qualités-là. Puis même des athées peuvent avoir toutes ces qualités-là. Donc, on n'a pas de quoi se gonfler, se péter les bretelles en disant, surtout pas si on pense qu'on est rendu humble et qu'on se pète les bretelles, on a un problème, on comprend. Mais d'avoir ces qualités-là ne fait pas nécessairement de nous quelqu'un d'extraordinaire parce que même les athées peuvent être ainsi. Donc, pour elle, ce matin, ce que j'aimerais qu'on regarde, c'est qu'on se questionne un peu sur le volet plus spirituel, d'une part, et comment Dieu a agi dans sa vie. Comment Dieu a pu prendre une personne ordinaire pour faire quelque chose d'extraordinaire. Et ça, c'est la grosse question. Sa spiritualité à Esther. Et là, si vous étudiez le livre d'Esther, vous allez avoir de tout. Vous allez avoir des gens qui pensent que c'était une SS, une super spirituelle, puis d'autres qui vont vous dire c'est le contraire, cette femme-là, on ne sait même pas si elle connaissait Dieu. Vous avez tous les extrêmes en tant que tel. Parce que le texte ne nous dit pas grand-chose sur tout le volet religieux, spirituel, autant pour Esther, Mardoché, que pour le peuple. Aman, lorsqu'il parle au roi de ce peuple-là, il va dire que c'est un peuple dispersé et à part parmi les peuples. Ah! Donc, les Juifs avaient quelque chose qui faisait qu'ils étaient à part parmi les autres, et il va ajouter en ayant des lois différentes de celles de tous les peuples. Donc, on a un petit indice ici que Mardoché, Aman vient nous dire, ce peuple-là, là, qu'il y a dans leur royaume, il est bizarre. Il y a des habitudes, puis des lois différentes de nous autres. Lorsque Mardoché apprend, lui, de son côté, que le peuple va être exterminé, et parce qu'il refuse de faire la courbette devant Aman, il prend le sac et la cendre. On voit ça au chapitre 4 et au verset 1. Lorsqu'il entend ça, il va dire, « Mardoché, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendre. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. » Donc, une habitude, effectivement, Aman a raison. Quand tu vois quelqu'un se promener, déchirer les vêtements, puis avec un sac, puis de la cendre sur le corps, un spécial. Puis le peuple juif, lui, tant qu'à lui, lorsqu'il a appris qu'il était pour être exterminé, ben, il est venu dans une grande désolation, au chapitre 4, verset 3. Il a jeûné, il a eu des pleurs, des lamentations, sac et cendre aussi. Voilà ce qu'il nous est dit sur Mardoché, le peuple. Esther, il ne nous en est pas dit beaucoup, à part qu'on sait que c'est une juive. Donc, sans doute, elle connaît tout ça aussi. Le seul petit indice qu'on a, c'est ce qu'on retrouve au chapitre 4 et versets 15 et 16 qu'on va lire ensemble. Esther envoya dire à Mardoché, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. » Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. C'est le verset clé un peu qui vient nous indiquer que possiblement, effectivement, au niveau spirituel, il y avait quand même des habitudes qu'elle connaissait bien pour s'adresser ainsi à Mardoché et que le peuple fasse ça pour avoir le soutien spirituel qu'il y a en arrière de ça. Parce que vous savez, souvent dans la parole de Dieu, le jeûne est accompagné à la prière. Je vous donne juste 2 exemples, mais on voit ça un peu partout dans la parole. Lorsque Néhémie a eu des nouvelles concernant l'état des murailles de Jérusalem, il dit ceci, il dit « Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux ». Voyez-vous le lien? Le jeûne accompagne la prière. Ce n'est pas juste jeûner pour jeûner, là, c'est le jeûne et la prière. Ensuite, Daniel, lors d'un des événements, dit « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. » Les mêmes éléments qu'on a retrouvés dans ce qui se passe avec Esther, ce qu'elle demande de faire et qu'elle va faire aussi en jeûnant et en priant pendant 3 jours, on voit que c'était quand même quelque chose qui faisait partie habituellement de la culture du peuple juif. Donc, ça nous donne quand même un indice, mais faisons attention de sauter à des conclusions des 2 extrêmes. OK? Parce que le texte, tout ce qu'on a, c'est uniquement ça ici. Donc, oui, elle peut avoir un état spirituel discutable. C'est fort possible. Comme le peuple d'ailleurs, parce que le peuple qui avait décidé de rester dans la région de Suse, plutôt que de s'en aller à Jérusalem. Donc, c'est quand même effectivement un état qui peut être discutable, mais du moins, on sait que depuis le début, ce qu'on dit tout le temps, peut-être que c'est un état spirituel discutable, peut-être que c'est une personne ordinaire, mais Dieu peut faire de très grandes choses. Donc, comment j'aimerais ça, moi, ressembler à Esther maintenant en 2018? Pourquoi? Bien, parce qu'effectivement, si je dis hashtag je suis Esther, c'est parce que je veux m'identifier. Peut-être aux belles qualités qu'on a vues tout à l'heure. Mais ce que j'aimerais faire, c'est qu'on aille un peu plus loin ce matin. Et la première chose que j'aimerais vous poser comme question, c'est quoi votre état spirituel? C'est quoi mon état spirituel à moi aujourd'hui, à vous aujourd'hui? Êtes-vous quelqu'un qui est vraiment proche du Seigneur? Êtes-vous quelqu'un qui est relativement froide par rapport aux choses de Dieu? Êtes-vous quelqu'un peut-être qui aimait bien avoir un certain formalisme religieux en disant « ça fait la job ». Êtes-vous quelqu'un qui est éloigné vraiment de Dieu? Mais quel que soit votre état spirituel ce matin, ce qui est merveilleux, c'est que de un, vous êtes ici. Donc si vous êtes ici, c'est parce que vous voulez entendre la parole de Dieu. Donc vous avez de l'intérêt pour ça, vous devriez avoir de l'intérêt pour cette parole-là. Et c'est pour ça que ce matin, en se servant d'Esther, on va aller un peu plus loin. Parce que nous, on a un privilège. On a la Bible en entier. Donc, notre source d'encouragement ce matin, elle dépasse ce que Esther pouvait avoir. Comprenez? Ce que Mardochée pouvait avoir, ce que le peuple juif pouvait avoir, parce que nous, on a la révélation de Dieu au complet, vraiment, devant nous. Donc, on peut utiliser vraiment la parole pour nous éclairer et aller un peu plus loin afin de ressembler à Esther, mais en 2018. La première chose, mon identification comme chrétien. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que pour une raison qu'on ignore, on ne peut pas spéculer. Au chapitre 2 et au verset 10, Mardochée a fait dire à la reine Esther de ne pas dire qu'elle était juive. Pourquoi? On ne le sait pas. Mais tôt ou tard, il fallait qu'elle le dise qu'elle était juive parce que tous les juifs étaient pour passer au cash. Elle l'a fait à un moment donné. Si je ramène ça maintenant à 2018, comment moi je m'identifie comme chrétien? Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où je dois le faire? Peut-être que pendant une période X, c'est peut-être mieux de ne pas le faire à ce moment-là. Mais tôt ou tard, on devrait être capable de s'afficher comme étant des chrétiens pour que les gens comprennent qui l'on est et peut-être aient plus même de respect ou à l'inverse, un peu plus de haine peut-être à notre égard. Mais il reste qu'on a notre identité. Donc, pour 2018, un peuple différent, c'était vrai. Aman l'a dit, puis c'était vrai que les Juifs étaient un peuple différent. Qu'est-ce qu'il en est de moi? Qu'est-ce qu'il en est de nous? Est-ce que lorsque les gens nous regardent, ils voient en nous un peuple différent de ce qu'il y a autour? Parce qu'ils devraient le voir, vous êtes d'accord avec moi? Comme croyant, comme chrétien, on devrait ressortir comme étant différent des autres. Pas pour se glorifier, mais parce que pour nous, la parole de Dieu est le guide de notre vie. Si vous voulez tourner, libre à vous, sinon je vous lis le verset dans Romains, chapitre 12, verset 2, il est dit ceci. Paul va dire, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » C'est clair. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » C'est clair. Est-ce que lorsque les gens me regardent, ils voient que je suis différent ou que vraiment, ils ne peuvent pas voir la différence? C'est un questionnement. Parce que pour Esther, ça a pris un certain temps. Elle a dit qui elle était. Les Juifs avaient une attitude qui démontrait qu'ils étaient différents. Mais pour nous, chrétiens, en 2018, ça devrait être la même chose aussi. Mes réactions par rapport aux critiques. Celle-là, là, j'ai hésité à la mettre. Parce que moi, je n'aime pas ça me faire critiquer. Vous savez comment ce que c'est. Lorsque Mardochée a pris connaissance de ce qui était pour arriver avec l'extermination du peuple, il est intervenu auprès de la reine. Et même si c'était la reine, il a dû la reprendre pour lui faire une mise en garde. Parce que là, elle, elle avait peur d'aller vers le roi là, et tout ça. Et là, il a dû la reprendre. Et elle a accepté d'être reprise. Elle a accepté cette critique-là et elle a avancé. Puis vous savez, pour nous aussi, on nous dit souvent que nos meilleurs amis, ce sont ceux qui nous aiment assez pour être sincères et honnêtes avec nous. On devrait tous avoir la bonne attitude lorsque quelqu'un est assez, nous aime suffisamment et est assez sincère pour être honnête avec nous. Et le proverbe 27,6 dit « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » Donc, ayons une réaction comme Esther et acceptons vraiment d'être critiqués. Maintenant, je vous dis tout de suite quelque chose. Souvent, quand on fait une prédication, après, il y a des gens qui viennent nous voir. « J'ai bien aimé ça, mais… » Tout ça, tiens, oui, on veut accepter, mais M. Bernier disait à Québec, vous savez, sans tact, il n'y a pas de contact. Donc, ayez le tact en même temps, avec amour. Reprendre avec amour, comme c'est merveilleux. Et là, c'est beaucoup plus facile d'accepter la critique. Donc, c'est vrai pour tous et chacun d'entre nous. Mon attitude face aux situations plus risquées. Dans le cas d'Esther, c'était vraiment plus que risqué, c'est un danger de mort. Pour 2018, pour nous, les dangers de mort ne sont pas tellement là. Mais on peut avoir à vivre des situations quand même beaucoup plus risquées. Regardez au chapitre 4, verset 11. On en a parlé quelques fois même dans le résumé. Chapitre 4, verset 11. Lorsque il faudrait qu'elle paraisse devant le roi Assuérus. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et elle va ajouter, « Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. » 30 jours qu'elle n'avait pas été appelée par le roi, même si c'était la reine. Et là, on lui demande d'aller entrer à l'intérieur et d'aller voir le roi, de mettre sa vie en danger. Vous savez, c'était très dangereux, mais il y a une leçon au travers de ça, c'est que la peur, elle est bien compréhensible, mais ça ne doit pas servir d'alibi pour se dérober de notre responsabilité. On a chanté tout à l'heure un beau chant, « Pourquoi craindre quoi? L'homme. » On a chanté ça. Notre Dieu est beaucoup plus grand. Car tu as fait les cieux, les étoiles, et ainsi de suite. Donc, Dieu est beaucoup plus grand. Donc, oui, ça peut être compréhensible d'avoir une crainte, d'avoir une peur. Mais lorsqu'on fait face à certaines situations plus risquées, on devrait être capable d'avancer. Mais il y a, ce n'est pas un parallèle, je cherche le mot, là. Je voudrais quand même attirer votre attention sur quelque chose. C'est que pour la reine, c'était un roi. Le roi Assuérus qui a tous les droits de vie et de mort et que de vouloir paraître en sa présence, c'était très dangereux. Mais vous et moi, savez-vous quoi? On est capable de nous approcher de quelqu'un de plus grand qu'Assuérus. Et nous, Dieu, est comme un père pour nous. Lorsqu'on connaît le Seigneur Jésus, lorsqu'il est notre sauveur, Dieu devient notre père. C'est pas merveilleux, ça? Et c'est ce qui fait qu'on a un accès à lui, comme un enfant auprès de son père. Et c'est pour ça qu'il va dire dans Romains 8, 15, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions, quoi? Abba, Père. » Devant les situations dangereuses, risquées, que ce soit dans notre témoignage, que ce soit à cause des persécutions, et nous ici au Québec, on est privilégiés, on n'a pas grand-chose, mais pensons à nos frères, nos sœurs qui sont ailleurs dans le monde, qui eux, vivent des choses si dramatiques, ben, on a le privilège de pouvoir nous appuyer sur vraiment un Père qui est là. Mais c'est aussi ce soutien-là, vraiment quelque chose qui comment dirais-je, qui va faire qu'on va rechercher aussi le soutien des autres. Oui, notre Père est là. Oui, on peut s'approcher de lui. Mais comme Esther l'a fait aussi, on peut rechercher vraiment le soutien des autres. Et au chapitre 4, toujours, et au verset 16, on l'a lu tout à l'heure, lorsqu'elle va demander à tous les Juifs de se rassembler, de jeûner, de sans manger ni boire pendant 3 jours, je jeûnerai, et ainsi de suite. Donc, elle fait appel vraiment au soutien des autres. Est-ce que moi, en 2018, je suis gêné de recourir au soutien des autres? Est-ce que moi, en 2018, je suis gêné de demander qu'on prie pour moi? On est tous membres du même corps. Vous savez, quand la parole nous dit que quand un souffre, l'autre souffre. Quand un se réjouit, l'autre se réjouit, et ainsi de suite. Si on est tous membres du même corps, frères et sœurs, on devrait être capable, lorsque c'est nécessaire aussi, de recourir, puis de ne pas se gêner, et d'ouvrir notre cœur pour dire qu'on a besoin du soutien aussi des autres, principalement dans la prière. Écoutez, l'apôtre Paul, Paul a pris la peine de dire aux chrétiens, « Priez pour moi, afin que lorsque j'offre la bouche, il me soit donné d'annoncer pleinement le mystère de l'Évangile. » Vous savez, il dit « Priez pour moi ». Paul a pris la peine de dire ça. Ça, il semble que ça devrait être humiliant. Et l'apôtre Paul, avec tout ce qu'il a fait, il a la peine de dire « Priez pour moi ». Bien, si Paul l'a fait, qu'est-ce qui empêche que vous le fassiez? « Priez pour moi ». Et lorsqu'on est capable de développer une intimité entre frères et sœurs, lorsqu'on est capable d'avoir cette relation plus proche les uns avec les autres, vous savez ce que ça va faire aussi? C'est que nos prières vont être moins générales. Les prières vont être plus personnelles. « Priez pour moi pour ceci. Priez pour moi pour cela. Mon frère, ma sœur, je vais prier pour toi pour ceci, pour cela. » Ça ne veut pas dire ça venir en avant, puis tout vider notre sac, puis là, vous... C'est pas ça que je veux dire. Mais vous comprenez le principe d'être capable d'en faire un appel au soutien des autres. Esther l'a fait devant une situation critique. Bien, nous, attendons pas d'avoir des situations critiques pour pouvoir le faire, nous aussi. Donc, Esther avait aussi vraiment un souci pour les autres. Et c'est pour ça qu'elle va tellement être préoccupée par les autres aussi qu'elle va intercéder puis avoir en appeler à la grâce du roi pour elle et pour le peuple. Un court verset, parce qu'à 3 reprises, elle va le faire. Chapitre 7, verset 3. « La reine Esther répondit, lorsqu'elle est devant Assuérus, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie, voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir. » À 3 reprises, la reine va s'adresser au roi pour trouver grâce vraiment de sa part en tant que telle. Trouver grâce devant un roi. Et nous, on a le privilège d'aller au trône de la grâce. Approchons-nous donc avec une assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans quoi? Dans nos besoins. Esther devait s'adresser à un roi qui il y avait des gros dangers. Mais nous, quand on s'approche de notre Père, on s'approche du trône de la grâce. Ce n'est pas une petite grâce, pensez-y. Le trône de la grâce, il n'y en a pas plus grande que ça. Elle a été vraie pour vous sauver, elle a été vraie pour me sauver, mais elle est vraie aussi pour y recourir lorsqu'on en a besoin. La même chose aussi. Puis, finalement, ma confiance en Dieu en 2018. C'est frappant de voir, lorsqu'on regarde la réponse d'Assuérus, autant Esther est arrivée 3 fois puis en demandant la grâce, le roi, à 3 reprises, lui, savez-vous ce qu'il a dit? C'est quoi ta demande? C'est quoi ta demande? Ça serait la moitié du royaume, je te le donne. Super! Hey! Tu sais, quand tu passes, tu sais que tu ne sais même pas si... Bien, pas de même, c'était pas comme ça, c'était autre chose. Il se faisait empaler, c'est pas bien mieux, là. Puis exposé. Bon, OK, ça, c'est autre chose. Je viens de perdre mon idée. Donc, ce que je disais, c'est ça, c'est avoir confiance à la réponse. Imaginez le roi. Tu veux 50% du royaume, je te le donne. Pourquoi? Parce que le roi a tous les pouvoirs. Il est capable d'aller au-delà de ce qu'elle veut demander. Il n'y a pas de limite. Bien, au trône de la grâce, avec notre grand Dieu, notre Père que l'on a, lui, il peut faire infiniment plus au-delà de tout ce qu'on peut penser seulement. C'est ça que sa parole nous dit. Croyez-vous ça? Je vous avoue que je ne le crois pas tout le temps. Je vous le dis. Bon, pas tout seul, on est au moins deux. Hein? Mais c'est ça, mais rappelons-le nous, la parole, elle est là pour nous encourager, pour nous faire avancer et cheminer pour que justement, on puisse être secouru dans nos besoins. Et là, je touche un point. Je sais que vous avez, peut-être certains vont dire, oui, mais là, c'est pas Esther, mais c'est le livre d'Esther. Et la providence de Dieu dans le livre d'Esther, c'est du début à la fin. Mais c'est quoi la providence? Okay? C'est quoi la providence? Deux petites définitions. Le petit Robert dit que c'est le sage gouvernement de Dieu. Le sage gouvernement de Dieu. OK. Le guide de doctrine biblique, ça se complique un peu, mais vous allez voir, c'est des grands mots, mais vous allez comprendre l'essence. C'est l'activité continue de Dieu par laquelle il fait en sorte que tous les événements, des domaines matériels, mental ou moral, accomplissent leur but, et ce but n'est rien d'autre que le dessein original de Dieu dans la création. Dieu avait un plan à la création, et il va s'accomplir ce plan-là, soyez-en certains. Et même au travers des événements qu'on peut se dire, ça n'a pas de sens, qu'est-ce qui se passe, mais son plan va quand même s'accomplir, c'est certain. Un peu comme on a vu dans le passé avec Joseph. Vous vous souvenez, lorsque Joseph, à la fin, il va dire à ses frères, « Vous aviez médité de me faire le mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour vous sauver. Vous aviez médité le mal, Dieu a changé tout ça en bien pour accomplir son plan. » La providence de Dieu, c'est ça. Et dans tout le livre d'Esther, il y en a plein d'exemples, comment on voit que même si le nom de Dieu n'est pas là, et ainsi de suite, comment Dieu agit. Je vous en donne juste quelques-uns en rafale. Le choix d'Esther, parmi tant de femmes, c'est elle qui a choisi la juive. La prise de connaissance de Mardoché d'un complot pour tuer le roi. Imagine, il y a eu la vie sauve grâce à Mardoché. La mémoire défaillante du souverain. Il ne l'a même pas récompensé tout de suite. Il n'a rien fait. Pourtant, ça aurait dû être important. L'insomnie du roi, un moment critique. Alors que là, Amman va s'approcher le lendemain pour venir demander la tête de Mardoché. Il ne dort pas. Il n'écoute pas de la musique. Il aurait pu écouter de la musique, un peu de l'harpe, je ne sais pas quoi. Ben non. Il se fait lire les archives royales, les annales, les chroniques. Tous les bienfaits qu'il a fait, tous ses grands exploits, et comment il a récompensé les personnes qui lui avaient fait du bien. Tout à coup, eux autres, ils lisent quoi? Le bout à Mardoché. Mais, hey! Hasard? Ben voyons donc! Coïncidence! La providence de Dieu est en arrière de tout ça, mes frères. Et un revirement total de situation. On pourrait en sortir tellement d'autres. Vous voyez? Et le plus important là-dedans, souvenez-vous d'une chose, la providence de Dieu. Si le plan avait été mis à exécution, tous les Juifs qui vivaient, dispersés, et les Juifs qui étaient où? À Jérusalem. Ils passaient au cache. Tous les Juifs, exterminés. C'est quoi le plan de Dieu? C'est que dans la lignée davidique, il y a qui en bout de ligne? Jésus. Plan de Dieu, on ne l'arrêtera pas comme ça. Il va s'accomplir parfaitement. Donc, si je vous posais la question très rapidement, reconnaître la providence de Dieu en 2018 maintenant. Cette providence-là, là, elle s'exerce dans le monde. Quand on regarde le monde présentement, avez-vous peur? Hein? Avez-vous peur? Mon armée est plus grosse que la tienne! De ce temps-ci, tu écoutes tout ça, là, tu te dis, mais bon sang, lequel premier qui va nous faire sauter? Mais Dieu demeure à quoi? Au contrôle par rapport au monde. Par rapport à Israël, ça n'a pas marché. Ils n'ont pas réussi à les exterminer. On a beau encore essayer aujourd'hui, ils ne réussiront pas parce que Dieu a un plan pour Israël. Dieu a un plan pour l'Église aussi. On a des frères et des sœurs qui sont persécutés. On n'est pas là pour se venger. Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais Dieu a un plan aussi pour l'Église. Et finalement, la providence de Dieu sur moi. Vous savez, moi, j'ai un gros problème. J'en ai plusieurs, mais j'en ai un gros. les circonstances. Moi, quand tout va bien, là, les circonstances sont favorables, et que j'aime donc ça louer le Seigneur. Mais quand les circonstances me sont défavorables, puis je pourrais vous en faire des listes des fois, à partir des travaux de rénovation, pour ceux qui me connaissent, là. Je dis, Seigneur, t'es où? Comment ça, tu permets ça? Voyons donc, ça n'a pas de sens. C'est juste à moi que ça arrive, des affaires de même. Et là, je deviens pas mal moins reconnaissant. Vous savez, c'est important qu'on puisse effectivement se rappeler tout ça. Mais en même temps, il faut vraiment se rappeler que Dieu demeure vraiment au contrôle de tout. Et après ça, arrive la fameuse fête. Joyeux Pourim! Ben, c'est parce que oui, Pourim, c'est ça. Ben, c'était ça qui est écrit dans la Bible, je vous le dis comme ça. Cette année, le Joyeux Pourim avait lieu à fin février, 28 février, 1er mars. Regardez sur Internet, il y a des fêtes organisées partout. Pourquoi? Pour célébrer la délivrance, pour se rappeler que Dieu a changé une situation catastrophique, il l'a amené pour sa gloire. Pour se rappeler qu'un peuple qui était dans la désolation a été dans l'allégresse par la suite. Et ça se perpétue depuis cette époque-là chez les Juifs. Pour nous, c'est quoi de célébrer la délivrance pour nous? C'est-tu pas de se rappeler la délivrance qu'on a eue par le Seigneur Jésus? C'est-tu de se souvenir? Mardochée, ils ont fait ça avec Esther, c'est des humains qui ont fait ça. Mais Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Le repas du Seigneur est une des places privilégiées pour goûter vraiment cela, apprécier sa grâce, lui montrer notre reconnaissance, célébrer la délivrance avec un paradoxe. Autant on peut exploser de joie, comme les Juifs le font à la Pourim, mais en même temps on se rappelle que pour nous, il y a eu un prix qui a été payé. C'est Jésus à la croix. Et c'est pour ça qu'on a ce grand paradoxe-là lorsqu'on prend le repas du Seigneur. Mais pour nous, c'est l'occasion de célébrer vraiment notre délivrance. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui est ici ce matin qui ne connaissait pas cette délivrance-là. Eh bien, moi, je vous invite à réaliser une chose. C'est que la croix, ça faisait partie de la providence de Dieu. Ce qui était pour les gens un fiasco en voyant Jésus sur la croix, bien, c'est Dieu qui exécutait son dessein à merveille. Parce qu'il a été livré, Jésus, la Bible nous dit, selon le dessein de Dieu. Et j'ai livré pour nos offenses, puis il est ressuscité pour notre justification. Ce matin, ma prière, c'est que vous puissiez vraiment réaliser cela dans vos vies, si vous ne le connaissez pas. Et pour nous qui le connaissons, que nous puissions vraiment l'apprécier de plus en plus. Et on va chanter un chant, j'inviterai l'équipe musicale à s'approcher. On va chanter un dernier chant qui a été composé et arrangement par Johan et Bernard Guy, justement sur Esther, mais sur la providence de Dieu. Vous ne le connaissez pas, je vous le dis tout de suite, donc les paroles vont être projetées à l'écran. Donc, si vous êtes assez vite pour apprendre un chant, chantez-le en même temps. Sinon, appréciez les paroles. Et je vous le dis en terminant, soyons reconnaissants de ce que Dieu peut nous utiliser. Il peut vous utiliser ce matin, indépendamment de qui vous êtes. Il peut vous utiliser pour faire de grandes choses. Mettez votre confiance en lui et soyez sûr qu'il va accomplir ce qu'il a prévu accomplir. Donc, chantons ensemble, s'il vous plaît. J'ai perdu ma feuille. J'ai plus de feuille, de toute façon. Le titre à Johan. Aide-moi donc, Johan. Le titre?
Voir ta main.
Voir ta main. J'ai plus de feuille. J'ai perdu ma feuille. Je ne sais plus. En tout cas, regarde. On va chanter ça, s'il vous plaît. Pouvez-vous lever, peut-être?
Ce pour dernier vous donner chant. L'air un peu, on va chanter le premier couplet deux fois.
Ce que tu as fait pour nous tes bien-aimés, face au plus grand danger, tu nous fais mourir. En tout temps, nous pouvons compter sur toi. ciel. Oui, nous voulons voir ta main en toutes circonstances. Que tu nous gardes de seulement vivre pour ton plaisir. Que tu nous gardes de ne pas croire en toi.
On reprend notre premier couplet.
Je veux te dire, oh Dieu, à quel point j'apprécie tout ce que tu as fait pour nous tes bien-aimés. Face au plus grand danger, tu nous as secourus. En tout temps nous pouvons compter sur toi. Oui, nous croyons en toi, le Dieu du ciel. Oui, nous voulons voir ta main en toutes circonstances. Que tu nous gardes de seulement vivre pour nos plaisirs. Que tu nous gardes de ne pas croire en toi. Seigneur, que tu nous émerveilles en orchestrant toutes choses selon ta volonté. Face au grand de ce monde, tu nous fais trouver grâce. En tout temps, nous comptons sur ta bonté. Oui, nous croyons le Dieu du ciel. Oui, nous voulons voir ta main en toutes circonstances. Que tu nous gardes de seulement vivre pour nos plaisirs. Que tu nous gardes de ne pas croire en toi. Oh Dieu, je veux comprendre quel est ton plan pour moi et le chemin que toi tu as tracé pour moi. Qu'avec courage je sois prêt à tout sacrifier, ma vie, mes ambitions pour toi, Seigneur. Croyons en ta puissance, en toi le Dieu du ciel. Oui, nous voulons voir ta main en toutes circonstances. Que tu nous gardes seulement vivre pour nos plaisirs. Que tu le Dieu du ciel. Oui, nous voulons voir ta main en toutes circonstances. Que tu nous gardes de seulement vivre pour nos plaisirs. Que tu nous gardes de ne pas croire en toi. Que tu nous gardes de ne pas croire.
Merci beaucoup. Alors, bonne fin de journée à vous dans la joie du Seigneur. Amen.